Pays où l'on n'arrive jamais, par André Dautel, 9e cassette, 2e face, page 239. Ils descendirent de la voiture en hâte, sans se préoccuper du cheval, qui d'ailleurs resta tout à fait tranquille et inclina seulement la tête pour mordiller des brins de gazon entre les pavés. Ils contournèrent la tente et furent devant un petit éventaire où étaient alignés des gâteaux saupoudrés de sucre, des pains au lait, des crêpes et des gaufres. Sur le côté, des réchauds avec des moules, des poêles où grésillait la friture. Une femme, jeune encore, au beau visage, aux lourds cheveux blonds, attendait la clientèle. La femme avait des regards patients et simples. Dans ses yeux bleus, néanmoins, brillait par instants cette même flamme dure qui avait surpris Gaspard quand il l'avait vu dans les yeux d'Hélène pour la première fois. Hélène s'était avancée en tremblant, tandis que le garçon et Niklas demeuraient un peu à l'écart. La femme ne prêta pas grande attention à ses clients éventuels, et elle parut ne s'intéresser nullement à Hélène. Elle avait baissé les yeux. Elle regarda enfin les mains d'Hélène. Le bracelet, dit Gaspard. Elle a vu le bracelet. Est-ce possible ? Murmura la femme. Elle dit encore comme malgré elle. Le bracelet d'Hélène. Puis elle leva les yeux vers le visage d'Hélène. Toutes les deux restèrent immobiles et silencieuses un long moment. Ce bracelet, dit encore la femme. Je l'avais quand j'étais malade à Stone, dit Hélène avec une voix ardente. À Stone, reprit la femme, ce village s'appelait Stone, c'est vrai. Moi-même, j'étais mourante. Un long silence encore. Les quelques mots échangés donnaient à l'une comme à l'autre une preuve immédiate et irrécusable. Cependant, elles hésitaient à se reconnaître. Elles éprouvaient le besoin de se contempler longuement. Les souvenirs d'Hélène restaient incertains, sans aucun doute. Et pour maman Jenny, Hélène avait tellement changé depuis le temps de la première enfance qu'elle parvenait difficilement à retrouver les traits de sa fille. Il suffit de quelques années pour que les êtres les plus proches deviennent étrangers. Seuls les regards... Enfin, maman Jenny souleva la toile de sa boutique et vint devant l'éventaire. Elle saisit les épaules d'Hélène dans ses mains. « Est-ce possible ? » dit-elle. « Je crois que j'ai retrouvé ton regard. Et toi ? » ?»« Ta voix ? » dit Hélène. Elles s'embrassèrent. Pendant un long temps, elles semblèrent ne pas pouvoir dénouer leur étreinte. « Viens dans ma caravane, dit maman Jenny. Il faut que nous parlions. Je t'attends depuis longtemps. »« Je te cherchais, dit Hélène. Tu me cherchais ?» Niklas et les garçons demeuraient à distance. Hélène les désigna. « Avec eux, je te cherchais. » Comment es-tu venu ici avec eux ? Demanda maman Jenny. Par hasard, répondit Hélène. Montez, vous aussi, dans la voiture, dit maman Jenny. Il faut que nous parlions. Ils contournèrent la tente de la boutique. Maman Jenny s'écria. Le cheval Pie, mon Dieu ! Tu le connais ? Demanda Hélène. Nous l'avions quand tu étais avec nous. C'était alors un jeune poulain. Tu pourrais t'en souvenir. Je l'ai vendu il y a 3 ans. Je ne pouvais plus le garder puisque je devais voyager avec cette voiture et cette caravane. Mais il n'a jamais voulu rester chez son nouveau propriétaire, qui est un homme de Revin. Il se sauve au milieu des bois et il galvaude jusqu'à ce qu'il me retrouve dans la région. Je l'ai ramené plusieurs fois à Revin, mais il s'en va toujours. Ainsi, il t'a conduite ici ? De simples caprices, crois-le bien, il est possédé par un feu qui n'est pas de ce monde. Gaspard l'a vu pour la première fois du côté de l'Amazon, répondit Hélène. Le cheval Pie demeurait immobile entre les brancards de la voiture. Il regardait les uns et les autres de ses yeux de rêve. Il faudrait le dételer, dit Niklas. Jérôme et Ludovic s'occupèrent du cheval, tandis que Niklas et Gaspard entraient avec Jenny dans la caravane. C'était une assez grande caravane, une seule pièce avec un lit bas dans le fond. Il y avait tout autour des boîtes et des ustensiles. Niklas et Gaspard s'assirent sur un banc, tandis que Jenny donnait une escabelle à Hélène. Elle-même s'assit au bord de son lit. Jenny avait gardé un visage très jeune, malgré la fatigue qui y était marquée. Ton père est mort pendant cet exode, dit Jenny à Hélène. Nous possédions alors plusieurs voitures tirées par des chevaux et nous donnions des représentations théâtrales et de pantomimes avec mes deux sœurs et deux hommes qui étaient les cousins de ton père. Tes deux frères étaient un peu plus âgés que toi. Tout ce monde s'est dispersé. Le matériel a été détruit par un bombardement au début de la guerre. Je n'ai retrouvé après ma guérison qu'une petite voiture, un cheval et un poulain. Voilà presque 10 ans de cela. Mes cousins et mes sœurs ont cherché fortune dans différents commerces. Tes frères sont aux colonies. Moi, je suis las, infiniment. Mais ce soir, j'ai vu le paradis. Elle parlait d'une voix égale. Quand elle s'était trouvée seule avec ses deux garçons, elle avait dû faire 1000 travaux. Elle lavait le linge des autres forains, passait des nuits à fabriquer des vanneries, et finalement s'était mise à pâtisser. « Je n'ai pas cessé de te chercher, » dit-elle à Hélène. « Je suis revenue à Stone. » Plus de traces de la femme qui nous avait recueillis. « J'ai mis des annonces dans les gazettes, je me suis adressée à des bureaux, j'ai parcouru la région, j'ai voyagé dans toute la France. Où étais-tu ?» Hélène dit que M. Draper l'avait soignée et élevée. « C'est incroyable que tu te sois souvenu et que tu aies songé à me rejoindre. » Hélène expliqua qu'elle avait rencontré beaucoup d'obstacles. Personne ne voulait la croire. Enfin, elle parla du livre d'images où il y avait écrit « Maman Jenny au grand pays ».« Le grand pays !» s'écria Maman Jenny. « Toi et moi, nous savions ce que cela signifiait. » Hélène lui avoua qu'elle ne comprenait pas encore quel était le grand pays. Jenny la regarda longuement. Ce n'est pas étonnant que tu aies oublié cela. J'espérais que si tu l'avais oublié, tu pourrais songer à moi. J'ai oublié, mais je désirais revoir toujours le grand pays, dit Hélène. Explique-moi, où est ce pays? Jenny demeura pensive quelques instants. Elle dit, je t'expliquerai demain. Pourquoi demain? Demain, reprit Jenny. Nous avons tant de choses encore à nous dire ce soir. Qui sont ceux-là? Elle désignait Niklas et Gaspard, ainsi que Jérôme et Ludovic qui venaient d'apparaître sur le seuil de la petite porte. Hélène expliqua ce qu'elle savait. Gaspard compléta l'histoire. Jenny voulut que rien ne fût passé sous silence, ni le voyage aux Bermudes, ni les fantaisies d'Emmanuel Rosidor. Quand on eut terminé par la dernière rencontre de Gaspard et d'Hélène avec Niklas, dont la voiture avait versé sur le chemin de la forêt, Jenny conclut. Ce sont de bien belles histoires. Mais ne vas-tu pas regretter, Monsieur Draper et Monsieur Rosidor? Faut-il que tu aies abandonné pour moi de telles chances? Ne valait-il pas mieux que tu poursuives une si belle carrière et que tu viennes me voir de temps à autre? Qu'ai-je à te donner? Je veux vivre chaque jour avec toi dans le grand pays, dit Hélène. Nous en parlerons demain, répondit encore Jenny. La nuit était très avancée lorsqu'on eut épuisé toutes les questions, sinon celles du grand pays. Gaspard apprit que ses propres parents se retrouvaient parfois sur les fêtes et sur les marchés avec Jenny et que Madame Fontarelle avait prédit qu'Hélène reviendrait par une nuit d'été. Tout était changé vraiment. C'était une autre vie. On se sépara pour la nuit. Niklas et les garçons allèrent coucher dans leur voiture. Hélène et Jenny restèrent dans la caravane. Le lendemain, on plia bagages. Certes, Il fallait que Gaspard retourne à Lomainval et que Nicolas regagne la Belgique avec Ludovic et Jérôme. Mais on n'osait pas en parler et l'on accompagna Jenny qui devait se rendre sur une autre fête. Avant de partir, Jenny pria Gaspard de monter avec elle et Hélène dans la caravane. Nicolas conduirait l'auto qui tirait la caravane. Il irait lentement, de façon que Ludovic et Jérôme puissent suivre le train avec le break sans emballer le cheval qui maintenant semblait apaisé. Jenny avait déclaré qu'elle parlerait du grand pays à Gaspard et à Hélène. La caravane possédait de chaque côté une petite fenêtre basse. Jenny fit asseoir Hélène et Gaspard sur le banc près de la fenêtre de droite et elle parla tandis que Nicolas menait doucement la machine et que les arbres défilaient le long de la route. Dans ce livre d'histoire, si tu l'as bien regardé, ne restait-il pas quelques feuilles d'arbres ? Demanda Jenny à Hélène. Des feuilles et des fleurs, répondit Hélène, des feuilles de chêne, de bouleaux, de palmiers. Et je revoyais des bouleaux et des palmiers, et même la mer, dans mon souvenir. Le vent soufflait sur le toit de la caravane et soulevait les rideaux de la fenêtre entr'ouverte. Quand tu as eu 5 ans, dit Jenny, tu es tombé malade. C'était une très grave maladie. Seul un miracle pouvait te guérir et tu as guéri. Mais alors, nous faisions ce que nous pouvions pour améliorer ta santé. Nous sommes allés planter notre théâtre dans les montagnes, près de la mer. Tu délirais souvent. Je t'apportais des fleurs et des feuilles des pays que nous traversions. Tu étais couché près d'une petite fenêtre comme celle-ci, et tu as vu les bouleaux, le palmier et la mer. Le grand pays, murmura Gaspard. Vous êtes dans le grand pays, dit Jenny. Le palmier et la terre noire, s'écria Hélène. Par la fenêtre, on voyait les pommiers chargés de fruits, le long de la route goudronnée. Nous verrons bientôt la mer et le palmier si nous le voulons, dit Jenny. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout, dit Hélène. Qu'y a-t-il encore? De Roquerouy, on gagna l'Aulnois, L-A-U-N-O-I-S. On ne resta qu'un jour à l'Aulnois. Puis on alla vers l'est, dans la région de la Haute-Meuse, pour redescendre sur l'Argonne. A-R-G-O-2-N-E. Le troisième soir, on s'arrêta à Verziers, V-E-R-Z-I-E-R-S, où une grande fête se préparait. On aida Jenny à dresser la boutique, puis on se retira dans la caravane pour bavarder. Gaspard savait que Nicolas parlerait de regagner la Belgique et que lui-même aurait à déclarer qu'il devait rejoindre sa tante à Lomainval. Ce n'est pas tout. Qu'y a-t-il encore? Demandait Hélène. Dieu sait, disait Jenny. Donc, ce soir-là, Nicolas parla de son retour en Belgique, et Gaspard dit qu'il prendrait le train pour Lomainval le lendemain. Ils étaient tous entassés dans la caravane. Une lampe à pétrole suspendue au plafond éclairait l'assemblée. Par la fenêtre ouverte soufflait le vent de septembre. Hélène et Jenny, assises sur le lit, étaient serrées l'une contre l'autre. Elles regardaient Nicolas et Gaspard, mais elles ne répondirent rien lorsqu'ils déclarèrent qu'ils devaient partir. Ludovic et Jérôme faisaient triste figure. Hélène se tourna vers Jenny, comme pour lui demander d'intervenir. Jenny eut un sourire et haussa les épaules. « Dieu sait ce qui peut arriver dans le grand pays, » dit-elle simplement. À cet instant, on entendit hennir le cheval Pie. Presque aussitôt, quelqu'un frappa à la porte. Personne n'osait bouger. On frappa de nouveau et Jenny dit qu'on pouvait entrer. La porte s'ouvrit. Sur le seuil parut un homme aux cheveux hirsutes. Gaspard reconnut son père. « Gaspard, dit Charles Fontarel, je savais bien qu'un jour tu viendrais au grand pays. » Gaspard s'élança vers lui. « Comment savais-tu ? » Madame Fontarelle, qui prédit l'avenir tout de travers, répondit Charles, m'a quand même annoncé ce soir que tu te trouvais dans les parages, et elle a aussi prétendu que tu étais dans cette caravane.
Eh bien, dit Nicolas.
Eh bien, Gaspard, dit Charles Fontarelle, je pense que tu voyageras avec nous.
Charles Fontarelle, qui gardait un air timide quand il venait à Lomainval chez sa belle-sœur Gabrielle Berlicot, montrait en ces lieux forains une ardeur inattendue. Il avait l'art extraordinaire du boniment, et d'un rien il pouvait dire toutes les merveilles du monde. Il se lança dans un discours par lequel il démontra que Madame Fontarelle et lui-même ne cessaient de songer à Gaspard et qu'il se chargerait, si Génie le voulait bien, de reconstituer un jour son théâtre avec l'aide de Madame Fontarelle, de Gaspard, de Nicolas et de ses garçons. « Car qui que vous soyez, disait-il à Nicolas, je pense que vous êtes les meilleurs amis de Génie. Je pense que Gaspard ne pourra pas la quitter non plus. » Je pense aussi que Gaspard désespérait de nous rejoindre, comme Hélène désespérait de rejoindre Jenny, et qu'il s'est passionné pour le pays d'Hélène après avoir renoncé lui-même à retrouver un jour sa famille, dont la digne Gabrielle Berlicot l'avait séparée, et sans savoir que le pays d'Hélène, c'était son pays. Et bien d'autres propos. Madame Fontarelle apparut au milieu de ses propos sans que Charles Fontarelle les interrompît le moins du monde pour cela. Elle serra dans ses bras Gaspard, qui voyait maintenant s'ouvrir une vie neuve. Voilà pourquoi Jenny répétait que dans le grand pays, il fallait toujours attendre d'autres événements. Ce soir-là, bien que tous fussent à peu près d'accord pour continuer ensemble la route, elle répéta de nouveau. « Ce n'est pas tout. » Hélène demanda, « Qu'y a-t-il encore ?» Les jours et les semaines qui suivirent, on devait gagner le sud, et après les bouleaux, les chênes et les sorbiers, découvrir les arbres de Judée, les orangers, les oliviers et les palmiers. Enfin, la mer. L'horizon du grand pays recule sans cesse au fond de l'espace et du temps. C'est le pays où l'on s'éloigne toujours ensemble et l'on ne parvient en un lieu désert que pour en trouver d'autres plus beaux. Comment le théâtre se constitua, quelle fut la vie mouvementée de nos amis, nous l'apprendrons un jour. Ce qu'il y eut encore, selon les pressentiments de Jenny, ce fut que pendant le cheminement des longues routes, on vit de plus en plus souvent Gaspard et Hélène qui marchaient côte à côte devant les voitures. Ils devinrent sûrs qu'ils resteraient unis toute leur vie. Jenny écrivit à M. Drapeur pour lui dire quel était le sort d'Hélène et quelle reconnaissance lui devait. L'homme répondit qu'il ne comprenait pas qu'Hélène eût abandonné la fortune pour une vie difficile et sans gloire. Gabrielle Berlicot, quand elle connut l'histoire, déplora plus que jamais l'originalité du monde. Mais l'un et l'autre avouèrent plus d'une fois qu'ils restaient émerveillés. En ces jours, en cet automne éblouissant des contrées du sud, Gaspard comprit donc l'éclat étrange des yeux d'Hélène, car lui-même, ainsi qu'elle le lui dit, eut cet éclat dans son regard. C'est sans doute le signe de l'étonnante et cruelle nostalgie qui fait désirer pour chacun une vie plus grande que les richesses, plus grande que les malheurs et que la vie même, et qui sépare en nous les pays que l'on a vus de ceux que l'on voudrait voir, Ardennes et Provence, Europe et Nouveau Continent, Grèce et Sibérie. Maman Jenny devait sans cesse répéter que ce n'était pas tout.
« Ce n'est pas tout !» clamait aussi M. Charles Fontarelle lorsqu'il s'adressait au public varié des villes en alignant des cravates sur ses avant-bras. « Ce n'est pas tout, car il faut enchaîner avec la vie. Ne m'achetez pas une cravate, mais 10 cravates, mais 20 cravates, et vous serez toujours sûr d'avoir une cravate à votre goût, même si vous avez choisi en dépit du bon sens. Et surtout, ajoutez à votre collection, pour le prix dérisoire et supplémentaire de 74 francs, cette cravate lumineuse, étincelante et phosphorescente qui est la découverte du siècle
et où vous pouvez voir le soleil au milieu de la nuit et les étoiles en plein jour.
Mais quelles que soient les aventures nouvelles qui nous attendent en compagnie d'un cheval pie traversé par la foudre, jamais nous ne quitterons le grand pays. Fin de la deuxième face de la 9e et dernière cassette du livre d'André Dautel, Le pays où l'on n'arrive jamais, page 249. J'espère que tu auras eu la même joie profonde que moi qui a enregistré cette histoire à ton intention, à connaître nos amis et à cheminer avec eux à travers les routes et les chemins de cette forêt d'Ardennes qui contient 1000 forêts. Adieu. Ou plutôt, au revoir peut-être.